Radio Okapi.
Le journal, c'est avec grâce Amzati Masanzi.
À la une de l'actualité, après un long moment de silence, l'ancien président de la RDC s'exprime sur la situation générale du pays, y compris les tensions dans la partie est. Selon Joseph Kabila, qui a accordé une interview à un média sud-africain ce dimanche, la crise sécuritaire actuelle nécessite plus qu'une solution militaire et critique à cet effet l'Afrique du Sud sur son intervention militaire en RDC. Pour lui, le problème, c'est la mauvaise gouvernance du régime de Tshisekedi qu'il qualifie d'ailleurs de tyrannique. Restez avec nous pour en savoir plus. 9 miliciens Mobondo tués et des armes récupérées par l'armée. Bilan des affrontements samedi entre les forces armées de la République et la milice Mobondo au village Ntomo dans les territoires de Kwamout ainsi que sur la route nationale numéro 17 à proximité de Kinshasa. Vous entendrez le porte-parole de l'armée dans cette région sous peu. L'invité de la rédaction ce soir est maître Raphaël Nyabirungu, professeur émérite et pénaliste. Il vient de tenir des séances de formation publique sur le droit pénal à Kindu. Pour lui, le droit est indispensable pour toute nation qui aspire à la justice et à la paix. Bonsoir à tous. L'ancien président congolais Joseph Kabila avertit l'Afrique du Sud contre son engagement militaire en République démocratique du Congo. Dans une interview accordée ce dimanche au journal sud-africain The Sunday Times, il souligne l'importance de traiter les causes profondes du conflit. Joseph Kabila exprime des préoccupations quant à l'implication de Pretoria dans l'est de la RDC où des troupes sont déployées sous mandat de la SADC. Des précisions dans cet élément de Christian Mapendano rendu par Jean-Désiré Kanyama.
L'ancien président de la RDC et sénateur à vie, Joseph Kabila, critique l'approche militaire de la SADC, affirmant que la crise actuelle dans le pays est en réalité politique, sociale et institutionnelle, et que la mauvaise gouvernance du régime actuel pourrait entraîner davantage de troubles. Il met en garde contre le risque que l'intervention militaire aggrave la situation déjà précaire dans le pays. Joseph Kabila rejette l'idée que le conflit soit uniquement dû à un affrontement avec le Rwanda ou aux actions du M23, soulignant une crise multidimensionnelle qui nécessite plus que des négociations. Il accuse le pouvoir en place dirigé par Félix Antoine Tshisekedi d'instaurer un régime répressif et de ne pas respecter la Constitution. Kabila appelle en outre l'Afrique du Sud et la SADC à soutenir la RDC dans sa quête de démocratie, de paix et de stabilité, plutôt que de se concentrer uniquement sur une aide militaire. Cette déclaration intervient alors que les tensions continuent de s'intensifier avec la progression de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et les demandes de sanctions contre Kigali. Pour Joseph Kabila, le monde observe attentivement pour voir si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera à envoyer des troupes en RDC pour combattre les aspirations du peuple congolais et soutenir un régime qu'il qualifie de tyrannique.
Entre-temps, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, exprime sa vive préoccupation face à la stigmatisation des populations congolaises par la les Kiswahili. Dans une note publiée hier, les évêques tirent la sonnette d'alarme sur cette ségrégation qui risque d'embraser les conflits intercommunautaires et de renforcer davantage les violences en RDC. Ils en appellent à la responsabilité du gouvernement. Le point avec Gisèle Cage.
Les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo dénoncent et condamnent sévèrement la chasse faite aux swahilophones dans la ville-province de Kinshasa et dans certaines autres zones de la RDC. Il est plus que malheureux de voir certains Congolais stigmatiser d'autres compatriotes parce qu'ils parlent le swahili, pourtant l'une de nos quatre langues aux côtés des innombrables langues locales, indique le communiqué de la CENCO publié hier samedi à Kinshasa. La CENCO s'est dit également indignée de voir certains pasteurs ou gourous exploiter les tribunes de leurs églises et autres cadres de prédication pour tenir des discours incitant à la discrimination, à la haine et à la violence contre d'autres Congolais en raison de leur origine, de leur langue ou de leur morphologie. Elle en appelle à la maturité de toutes les communautés pour ne pas se laisser induire en erreur par ceux qui prêchent la division et la chasse aux compatriotes parlant le swahili. Les évêques recommandent ainsi au gouvernement de prendre ses responsabilités pour assurer la protection de toutes les couches de la population congolaise et garantir la cohésion nationale et le bien vivre ensemble de toutes les races et ethnies en RDC.
De son côté, l'ONG Médecins Sans Frontières dit condamner avec la dernière énergie le manque de respect à l'égard de la mission humanitaire par les belligérants qui se battent à travers les différentes localités du territoire du Massif au Nord Kivu. Cette réaction est contenue dans les communiqués de cette organisation datée du 22 février en cours qui annonce le décès hier de l'un de ses employés blessé par balle en plein exercice de son travail. C'était le jeudi dernier lors des affrontements entre les éléments de la rébellion du M23 AFC et les VDP Wazalendo dans les environs immédiats de l'hôpital général de référence de Masisi, Chris Moukan.
Toute la famille Médecins Sans Frontières est aujourd'hui en deuil, mais également en colère face à cette situation. La disparition tragique de Jerry Muhindo Kavati s'inscrit en effet dans un contexte de violence de plus en plus marqué, affectant les installations sanitaires et humanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la description de la situation que l'on trouve dans le communiqué de cette organisation humanitaire. Décédé à 49 ans, Jerry a travaillé avec Médecins Sans Frontières durant plus de 10 ans. C'est donc avec un pincement au cœur que l'organisation rappelle aux belligérants que même la guerre a ses règles. Aujourd'hui encore, l'hôpital et la base Médecins Sans Frontières de Masisi Centre sont remplis des familles venues y chercher protection face aux affrontements ainsi que de patients pris en charge, dont un grand nombre de femmes et d'enfants victimes des tirs de ces derniers jours. Sur la seule journée du 20 février, 11 patients ont été pris en charge pour blessures par balles. Tous sont des civils, dont cette femme et enfants, renseignent les communiqués. À noter que Médecins Sans Frontières est présente dans la zone de santé de Masisi depuis 2007. Ses équipes y soutiennent l'hôpital général de référence, le centre de santé, également plusieurs autres centres de santé plus reculés dans la zone.
Comme indiqué dans les titres, au moins 9 miliciens Mobondo tués et des armes à feu de calibre 12 récupérées par l'armée. C'est le bilan qui résulte des deux affrontements survenus hier entre les forces armées de la République et la milice Mobondo au village Ntomo dans les territoires de Kwamout et sur la route nationale numéro 17 à 5 km du village Mongata dans la commune rurale de Maluku à Kinshasa. L'armée dit avoir aussi récupéré 60 vaches volées par ces miliciens dans les fermes situées le long de cette route. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'opération Ngemba dans la 11e région militaire du Grand Bandundu, explique au micro de Irène Mbomaluzolo.
Ce samedi, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées. Premièrement, vers 3h du matin, au village Ntomo, situé au sud de la cité de Kwamout, province de Maïndombe. Bilan encore provisoire fait état de 3 miliciens neutralisés. Une arme récupérée de type calibre 12. Deuxième affrontement s'est passé ainsi dans la commune de Maluku, sur la route nationale numéro 17, à 5 km de la cité de Mongata. L'armée congolaise a récupéré le matin de ce samedi 22 février 2025 60 vaches volées par ces miliciens Mobondo qui sèment terreur dans cette zone. Ces vaches ont été volées vendredi 21 février dans quelques fermes de paisibles citoyens situés le long de la RN17. L'armée congolaise a neutralisé également 6 miliciens Mobondo et récupéré 2 armes à feu de type calibre 12. Les opérations de combat continuent dans l'ensemble de la zone opérationnelle Ngemba pour imposer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Profitant de cette occasion, le général de brigade Moyo Rabi Richard, commandant des opérations sur l'axe Kwamout-Bagata, appelle les miliciens Mobondo encore cachés dans les brousses à se rendre aux forces de l'ordre avec leurs armes de guerre afin de favoriser la paix et la coexistence pacifique. Vous écoutez Radio Kapi à Kindu, dans la province du Maniema sur 103 FM, où 2 militaires commandos ont été retrouvés morts au centre de formation des commandos du camp Luama. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui s'est rendu sur place, un soldat a tiré sur son collègue, les tuant sur le coup avant de se suicider. La Ouamo Selemani Taylor exprime au nom du gouverneur des provinces, dit-il, ses regrets pour cette perte et annonce que le gouvernement provincial prendra en charge les obsèques. La Ouamo Selemani Taylor explique la situation au micro de Florence Kizalonga.
Hier la nuit, on a été signalé qu'il y avait un incident au niveau du camp, le centre de formation des commandos. On nous a appris qu'il y a un militaire qui serait ivre, qui a tiré sur son compagnon d'armes et qui en est succombé sur place. Alors l'auteur de ce forfait ayant constaté que son collègue était tombé, il a décidé aussi de se suicider en se tirant sur la tête. Et voilà, aujourd'hui nous avons déjà deux corps au niveau du camp ici, ce qui nous fait très mal en cette période où nous comptons nous fondons tous nos espoirs sur les actions de FRDC. Perdre deux militaires, je crois que ça nous fait consterner. C'est pourquoi l'autorité provinciale demande au commandant centre de pouvoir veiller sur la discipline. Parce qu'il est toujours dit, dans l'armée, la discipline est la mère des armées. Donc, il doit éviter à ce que ces hommes sous sa coupe soient dans une divagation. Et voilà, aujourd'hui, nous venons de perdre deux éléments. Pour nous, pour le chef de l'État, qui est le commandant suprême, c'est une perte énorme. C'est pourquoi il doit discipliner ces hommes pour que la population continue à être rassurée sur les actions contre l'agression que nous sommes en train de vivre au niveau de l'Est.
Par ailleurs, à Ituri, une délégation conjointe de la MONUSCO et du gouvernement provincial a conclu hier une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans le territoire de Djougou à la suite des violences ayant causé au moins 60 morts. Certaines recommandations incluent des rencontres avec les différentes couches de la population pour mettre fin à l'insécurité dans cette région. Il s'agit notamment de la réconciliation entre les communautés locales, du renforcement des troupes des FRDC et de la MONUSCO, ainsi que de la répression des auteurs des crimes. Ces mesures visent à renforcer les mécanismes déjà en place, tels que le système d'alerte, les patrouilles conjointes et le déploiement des bases temporaires des casques bleus dans certains points stratégiques. Bamehuka Sado, de la section des affaires civiles de la MONUSCO et membre de cette délégation mixte, résume ses recommandations au micro d'Isaac Remoyopi.
Ces derniers temps, on avait enregistré une forte montée des violences avec des tueries, incendies des maisons et blessures des civils. Le bureau de la MONUSCO en Ituri a dépêché cette équipe. On voulait comprendre quelle est cette nouvelle dynamique qui vient embrouiller les choses. Parce que de 2000 à 2024, il n'y avait pas de violences interethniques à Fataki. Il y avait même des projets communs. Plusieurs causes qui aboutissent à cette montée des violences. Toutes ces actions documentées, un jour ou l'autre, la justice fera son affaire. Économique, le chômage des jeunes, ils ne sont pas occupés, le faible nombre des acteurs de protection du côté gouvernement. Mais de tout cela, nous comptons sur la population locale et sur la réconciliation, sur la cohabitation pacifique. Nous les avons sensibilisés pour la paix et les efforts que la MONUSCO est en train de faire pour protéger les populations contribuent également pour ramener la paix aux environs de Fataki et en territoire de Djougou en général.
18h12 dans ces studios de Radio Okapi en direct de Kinshasa. Nous parlons de la libération de l'opposant politique Jean-Marc Kabound, président du parti Alliance pour le Changement. Son avocat apporte quelques précisions sur la dite libération intervenue vendredi soir. Dans le cadre d'un recours extraordinaire introduit par les biais d'une procédure en révision, la Cour des cassations a rendu son arrêt d'acquittement en faveur du président Jean-Marc Kabound le 21 février. Ainsi, les infractions retenues dans le précédent arrêt de la condamnation sont effacées et son casier judiciaire devient désormais vierge, a précisé hier Maître Emmanueli Kahaya, qui ne reconnaît pas la grâce présidentielle pour son client. Écoutons plutôt Maître Guilain Mwanji, l'un des avocats et conseiller national du parti de Kabound, au micro de Jordan Blaise Shindani Kambala.
Et le président Jean-Marc Kabound, par son courage et son engagement indéfectible, incarne une alternative sérieuse et crédible à cette dérive. Sa libération est un nouveau départ, un appel à l'action pour tout Congolais soucié de l'avenir de notre pays, de notre nation. C'est avec une détermination, une solidarité et une foi à l'avenir que nous réussirons ensemble à surmonter cette crise. Le moment est donc venu pour nous, avec la libération du président Jean-Marc Kabound, pour faire entendre davantage notre voix, revendiquer nos droits, de bâtir un Congo meilleur. Et c'est lui que nous méritons tous, c'est lui que le compatriote à l'Est mérite. Le changement est possible, le changement commence donc maintenant avec le président Jean-Marc Kabound sur la scène politique.
Direction la province de la Tchopo, dans les territoires d'Ubundu, les déplacements incessants des enseignants des écoles publiques de l'antenne éducationnelle Ubundu 3 risquent de provoquer une déperdition scolaire. C'est ce qu'affirme un administrateur scolaire et notable de la localité d'Eloa. Selon lui, ces mouvements empêchent les élèves de suivre normalement les cours, car certains restent sans enseignants jusqu'à leur retour. D'autres, en revanche, sont regroupés dans des classes parallèles, créant ainsi un surnombre qui ne permet pas un bon encadrement des élèves par un enseignant. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
Ces déplacements des enseignants du secteur de Walengola sont motivés par les soucis de régulariser leur situation salariale, affirme un notable de l'OUA. D'après Thomas Molanga, les enseignants accusent 2 ou 3 mois de retard de paiement de leur salaire selon le cas. Alors, ils sont obligés de se déplacer pour qu'ils s'en gagnent. Et cela engendre des dysfonctionnements dans l'enseignement. Les enseignants ne sont pas permanents. Ils suivent leur argent à qui s'en gagne. Pour le moment, les enfants n'étudient pas. Vous pouvez constater que dans une école de 6 enseignants, 4 sont partis à Kisangani. Le directeur mêmement. Maintenant, qui va surveiller ces enseignants? Pour le directeur de la province éducationnelle de Tchopo 1, tout se déroule normalement à l'antenne éducationnelle à Ubuntu 3, hormis quelques cas isolés. Il s'agit, selon Alain Mwimbi Mwimbi, de ceux qui n'ont pas encore élargi leur compte de monnaie électronique.
Il y a quelques cas isolés, des réclamations pour lesquelles on est en contact avec les amis de la TID qui sont en train de résoudre ça. Le problème, c'est qu'on a demandé aux amis enseignants d'élargir leur compte afin qu'on puisse verser directement l'argent sur leur compte, mais ils veulent toujours se déplacer. C'est une façon de fuir les enseignements.
Alain Mwimbi Mwimbi menace des sanctions exemplaires. Tout enseignant qui ne regagnerait pas son poste d'affectation pour continuer avec les enseignements. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des jeunes Ivoiriens victimes d'une escroquerie à l'immigration au Nigeria. Tenez, une 50aine d'Ivoiriens rapatriés du Nigeria sont actuellement hébergés dans un centre d'accueil chrétien des Grands Bassam à l'est d'Abidjan. Selon les autorités d'Abuja, ils avaient pénétré irrégulièrement sur le territoire nigérien, attirés par la perspective d'un emploi ou d'un départ pour l'Europe. Une promesse qui s'est avérée être une arnaque.
L'invité.
C'est Maître Raphaël Nyabirungu Mwenesonga, professeur émérite et pénaliste. Il a tenu des séances des formations publiques sur le droit pénal à la faculté des droits de l'université Mapon à Kindu ce week-end. Il rappelle que le droit est indispensable pour toute nation qui aspire à la justice et à la paix. Le professeur Raphaël Nyabirungu Mwenesonga s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Professeur Raphaël Nyabirungu, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'inculquer quelques notions de droit pénal aux étudiants de la faculté des droits de l'université Mapon, mais aussi à la crème intellectuelle du maniement. Est-ce qu'on peut savoir d'abord c'est quoi les droits pénals?
Les droits pénals, c'est un ensemble de règles qui déterminent les comportements punissables et les peines qui leur sont applicables dans une société donnée. Mais c'est une très bonne chose, une très bonne initiative. Et nous sommes heureux qu'on nous ait donné l'occasion d'accompagner la faculté des droits au stade de sa fondation par nos leçons publiques des droits pénals. Nous pensons avoir aussi apporté une pierre à la construction de l'édifice. Donc nous sommes heureux que nous ayons communiqué notre expérience à des jeunes générations montantes. C'est un plaisir, c'est un gain pour la nation et pour nous tous.
Pourquoi est-il important de connaître les droits pénals?
C'est pour tout le monde qui veut la paix et le développement. Il ne peut qu'apprécier la production de connaissances en droit, leur partage et leur diffusion. Le droit est indispensable pour toute nation qui aspire à la justice et à la paix.
Et au Congo, c'est respecté?
C'est quand ces droits nous manquent que les droits deviennent indispensables.
Alors, au regard de la situation actuelle de guerre à l'Est où le Rwanda est accusé comme agresseur, dans le droit pénal international, quelles sanctions réservées au pays agresseur et quelle juridiction qui sera compétente pour le faire?
Le droit international pénal ne s'adresse pas aux États, mais s'adresse aux individus. Ce sont des individus qui engagent leurs responsabilités, qui peuvent répondre devant les tribunaux pour des crimes éventuellement commis.
Professeur, dans votre adresse, vous avez dit que dans l'histoire des crimes contre l'humanité et autres exactions, il a été révélé que l'une des causes de l'enclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'impunité des crimes commis à la Première Guerre mondiale. Alors, face aux crimes et massacres à répétition en RDC et à l'échec de l'instauration d'un tribunal spécial pour les Congos, en tant que pénaliste, quel conseil est donné au gouvernement congolais pour mettre fin à ces crimes étant donné que les présumés auteurs sont en libre circulation?
Le premier conseil qu'on peut donner au gouvernement congolais, c'est de donner des moyens suffisants à nos juridictions, de manière qu'elles soient en mesure d'enquêter, de juger, éventuellement de condamner, de réclamer des dommages et intérêts vis-à-vis de toutes les personnes impliquées à un titre ou à un autre. Des moyens d'abord.
Est-ce que le rapport mapping restera toujours sans issue?
C'est la même question. Tant que le gouvernement congolais ne s'implique pas davantage en donnant à nos cours et tribunaux la possibilité de s'acquitter de leur mission de juger, les rapports mapping risquent de rester sans issue. Remarquez que c'est depuis bientôt 15 ans que ce rapport est sorti et aucune initiative pour poursuivre les nombreux incidents qui avaient été relevés, qui sont au-delà de 600. Donc, on est dira jamais à ce gouvernement combien il est nécessaire que les crimes commis sur notre territoire soient punis pour prévenir d'autres crimes, pour servir d'exemple à d'autres qui seraient tentés de commettre les mêmes crimes.
En RDC, il a été confié aux juridictions militaires de se saisir des crimes de la compétence de la CPI. Est-ce que cette juridiction en a les moyens d'enquêter dans les zones occupées?
D'abord, ces juridictions n'ont plus de compétences. Depuis les lois du 31 décembre 2015, aujourd'hui, les juges naturels des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est la cour d'appel qui siège dans chaque province, en tenant compte que Kinshasa compte deux cours d'appel. Ce sont elles qui sont les juges naturels pour juger les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Professeur Raphaël Nyabirungo, je vous remercie.
Je vous en prie, merci aussi.
Notre invité répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici s'achève ce journal. Merci à Gisèle Cash et Jude Mister Bilanda pour la coordination et Mimi Kindou pour la mise en onde. Grâce à Mzati Masanzi était la présentation. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur www.radiokapi.net. Suivez-nous aussi sur notre chaîne WhatsApp dont les liens se trouvent sur nos plateformes digitales, notamment Facebook et X.